France Inter.
Fils de Philippe, fils de Brigitte et sœur de Esther et de Léna. Maintenant, je suis frère d'eux.
Nous ne sommes pas jeunes de la même façon. Physiquement, intellectuellement, cérébralement. Intellectuellement, ça vous jugez selon ce que vous pensez de ce que nous écrivons l'un et l'autre.
Un père qui nous aime certainement, j'espère bien, mais c'est pas gagné d'avance.
Moi, j'ai la jeunesse civile, chronologique et biologique. Mais je me sens beaucoup plus géologique que lui. Il est un esprit vif. Moi, je suis un champ de labour.
Une mère, c'est un lien qui est indélébile, qui est quelque chose de très très fort.
Toute cette semaine, dans l'heure bleue, une série spéciale transmission. Parents-enfants, enfants-parents. Dans un temps où les parents veulent désespérément ressembler le plus longtemps possible à leurs enfants pour ne pas trop vieillir, ce soir, épisode numéro 4, Sylvain Tesson, fils écrivain, Philippe Tesson, père journaliste, qui éduque qui ? Comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Bernard Lavillier, On the Road Again.
Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again. Des fleurs sauvages, n'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again, again.
Merci Philippe Tesson, Sylvain Tesson d'être avec nous ce soir pour cette série consacrée aux parents et aux enfants, aux valeurs, à la transmission, à la filiation. Ma première question est simple, elle s'adresse à vous deux. Qui est le plus jeune d'entre vous ?
Qui va commencer à répondre à cette question ? Le plus vieux ?
C'est à l'heure de choisir. C'est à elle qu'on pose la question.
Par préséance d'âge ? Comment fait-on ?
Ben pour autant qu'elle nous connaisse, je lui pose la question. Qui est, selon vous ? Si vous posez la question, c'est que vous pensez que c'est moi, c'est-à-dire le plus vieux. C'est vrai, ça a plus de charme.
Pas forcément, justement.
Que si nous étions dans l'ordre biologique et dans le rapport. C'est ça,
vous pensez que... Les pères sont pas forcément plus vieux que les fils.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Nous ne sommes pas jeunes de la même façon. Je crois, physiquement, intellectuellement, cérébralement, on peut choisir. Physiquement, c'est lui, incontestablement. Bah, par la loi de la biologie. Intellectuellement, ça vous jugez, selon ce que vous pensez de ce que nous écrivons l'un et l'autre. Si écrire est notre métier.
C'est-à-dire que normalement, les préséances d'état civil font que celui qui est le premier à répondre à cette question est le plus ancien, le plus âgé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous avez votre réponse par la chronologie de notre organisation de répartition de la parole. Il a commencé et je conclue en disant qu'il a raison. Moi, j'ai la jeunesse civile, chronologique et biologique, mais je me sens beaucoup plus géologique que lui. Il est un esprit vif. Moi, je suis un champ de labour, moi. J'ai besoin... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand il se passe quelque chose, par exemple, vous savez, il y a des événements, ça s'appelle l'actualité. Il aime, lui, donner une réaction immédiate, presque épidermique, et il excelle dans ça, c'est un talent, ça s'appelle d'ailleurs le... Je crois que ça s'appelle le journalisme, d'ailleurs. Et moi, je suis incapable de ça. Il me faut 10 ans avant de commencer à avoir l'embryon d'un sentiment à propos de quelque chose qui se passe.
Il est métaphysique, lui. Donc il va plus loin et plus profond, surtout. C'est un foreur, comme on dit une foreuse. C'est une machine foreuse. Il va loin dans la réflexion. Il n'est pas superficiel. Il a un bon commerce avec les mystères de la condition humaine, nos origines, notre destin, toutes ces choses. Moi, je suis pas profond. Je suis plus un oiseau. Lui serait plutôt une taupe et moi un oiseau du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça induit donc un rapport particulier avec la jeunesse. Il est donc plus vieux que moi, oui. Il est préhistorique même. Il va tellement au fond des choses. Préhistorique et métaphysique. Voilà. Ça vous convient comme définition? C'est ainsi que je le trouve, que je le considère. Et ça m'impressionne, ça m'impressionne. Oui, ça m'impressionne beaucoup. J'aurais beaucoup aimé être ce qu'il est. Et je ne pense pas, mais j'en conçois pas un complexe irrespirable. Je ne sais pas ce qu'il en est de lui. On ne parle jamais de beaucoup de ça. On s'entend bien, on est bien ensemble dans la vie. On complique pas. Moi, je complique pas. Lui compliquerait beaucoup plus que moi. Est-ce que tu es d'accord ?
Non, mais c'est-à-dire que non seulement. D'abord, je te remercie beaucoup parce qu'en fait, là, vous venez d'entendre des choses très aimables dites par, sans doute conduites et guidées et inspirées par l'affection d'un père pour son fils, mais pas très exact, pas très vrai, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que je sois métaphysique. Je suis simplement un peu lent à la détente. Je suis une mèche lente, alors que lui est une mèche rapide. C'est même plutôt une dynamite. Ça lui pose parfois des problèmes. D'ailleurs, on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler son espèce d'adoration pour la réaction immédiate, chimique et épidermique à l'égard des choses suscite parfois des emportements. Alors lui, il aime ça. Il appelle ça l'hygiène de la vie, l'hygiène mentale, la réaction immédiate, l'impression que les choses... ont sur vous. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de la maturation. Moi, je suis sédimentaire. Vous savez, comme ces couches stratigraphiques qui procèdent d'un long dépôt de particules qui finissent par faire une couche plus ou moins agréable à regarder.
Sécrétion.
Oui, les sécrétions. Le dépôt. Le fond de cuve. Alors que lui, c'est plutôt un tesson, quoi.
Qu'y avait-il dans la bibliothèque familiale, Sylvain Tesson?
Il y avait beaucoup de livres d'art. C'est le souvenir que j'ai parce que pour le reste, moi, je me suis intéressé très tard à ce qu'il y avait dans la bibliothèque familiale. Ça me passionne maintenant. Je la pille beaucoup. J'ai un comportement de cavalier mongol, vous savez, les grandes invasions des Huns dans les potagers de l'Europe. Je pratique, moi, ces razzias dans la bibliothèque, au grand dommage des ordonnancements très classiques de cette bibliothèque, rangée par ordre alphabétique. Ce qui est comme, c'est quand même la preuve d'un optimisme quand on range les choses par ordre alphabétique et qu'on a des enfants et on risque de retrouver Anouilh à côté de Zola assez vite. Alors maintenant, je
dis. De toute façon, ça se touche.
Ça se touche.
Bah ouais.
Les extrêmes.
Non, mais
les
t'as jamais compris. Tu crois que A et Z se distinguent? Eh ben, pas du tout. Si on touche.
Que les extrêmes se touchent, ça je le savais, mais que les extrémistes se touchent, ça c'est pas sûr.
Surtout ces deux-là, ils se touchent pas. C'est vraiment l'exemple contraire de la touche. C'est vrai.
Non, mais les livres d'art. Il y avait les livres d'art.
Il y avait beaucoup de livres.
Il y a le
encore,
regard.
Il y a encore d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de livres. Oui, vous lui demandiez ce qui l'intéressait dans la bibliothèque. Peu de choses, il était cancre. Même les livres pour enfants n'intéressaient pas. Il a appris, ce qui est d'ailleurs très très curieux. Ça ne veut pas dire qu'il lisait Nietzsche enfant. Non, ça veut dire que vraiment il était cancre, il ne lisait pas, il détruisait. Et c'est à l'adolescence qu'il est devenu ce qu'il était. Ça a été long à venir, mais c'est venu tout d'un coup et très fort. Alors depuis, il dévore tout. Il a beaucoup, beaucoup lu. Il a plus lu que moi en 44 ans, 5 ans, que moi en 90 ans. Nous avons exactement. Il a la moitié de mon âge. Enfin, c'est pour que vous sachiez, parce que je sais que nous n'avons pas une apparence conforme à la réalité. Je voyais que vous vous étonniez. C'était ainsi que voilà, j'ai répondu à toutes vos questions.
Vous avez été patient jusqu'à ce que votre fils devienne ce qu'il est devenu, comme vous venez de le dire, Philippe Tesson.
Je savais que une intuition paternelle, c'est souverain.
On dit généralement ça pour les mères, mais pour les pères, comment va la définir?
J'avais une relation un peu maternelle, et sa mère avait avec lui une relation plus autoritaire. Que moi, je lui montrais plus de, mais c'est pas du tout péjoratif, je lui montrais plus de tendresse que sa mère ne lui en montrait. Elle l'a élevé d'une manière plus rigoureuse que moi. Voilà. Et vous disiez, alors, c'était quoi la question? Il n'y avait pas de question.
La patience jusqu'à ce que chrysalide devienne papillon.
Non, je savais qu'il deviendrait ce que.
Mais comment le saviez-vous?
Une intuition, une observation, ou alors était-ce une espérance qu'il a deviné jusqu'à finalement la réaliser pour me faire plaisir. Jusqu'à la terminale, il était vraiment le dernier de la, quasiment le dernier de la classe. Il était avec un certain panache, mais il était le dernier de la classe.
Et ça vous désespérait ou ça vous
non,
faisait plutôt
tout,
plaisir?
Non, pas du tout, ça m'amusait beaucoup parce qu'il y avait quand même, non, il y avait des compensations. Il avait des qualités, il avait une personnalité attachante. C'était ce qu'on appelle le gosse adorable, insupportable, désordonné, mais tellement fantastique, original, drôle, gentil, au fond, pitre, généreux dans ses comportements humains. C'était fantastique. Il était cancre parce qu'il n'aimait pas travailler. Il aimait la nature, il aimait le sport, il aimait être dehors, il aimait le ciel, les oiseaux, toutes sortes de choses qui m'étaient totalement étrangères car j'étais un intellectuel complètement confiné dans sa conservation épaisse et voilà. Nous étions différents. Enfin, j'en rajoute un peu sur moi. Voilà. C'est en terminale. Donc, il a révélé sa vraie nature. Il a implosé et il s'est intéressé à la philosophie d'abord. Et puis, très rapidement, en quelques semaines, il est devenu un monstre de travail. Et puis, il a fait une cagne et puis des études brillantes. Voilà. C'est venu. Ça a été extraordinaire. Était-ce une conversion? Était-ce une ruse? Était-ce l'effet de la nature? Je ne sais pas. Enfin, j'ai répondu à votre question. Il était cela et j'ai observé et voilà, j'étais très content, oui, de voir la transformation. Vous savez ce qu'il est devenu? Oui, à peu près. Oui, il est devenu un marcheur, un explorateur, un voyageur. Et puis après, il a écrit.
Vous l'admirez, votre fils?
Beaucoup. Oui, beaucoup. Bon, oui, c'est évident. Je suis pas fier. On n'est pas fier. La fierté, ça, c'est tellement ridicule. Je suis heureux qu'il soit ce qu'il est. Je suis heureux aussi de ce que je suis. De toute façon, j'ai un naturel heureux. J'en dis pour rien. C'est à lui qu'il faut demander la question s'il est heureux d'être ce qu'il est. D'une première fois, deuxièmement, s'il est heureux d'être mon fils, c'est pas on peut lui demander. On ne s'est jamais expliqué.
Mais moi, je ne réponds qu'aux questions de Laura Adler. Vous êtes une usurpation de poste pendant votre émission.
Question est bonne.
Oui, mais
êtes-vous heureux d'être le fils de Philippe,
mais
Sylvain?
Évidemment, je suis très heureux qu'on ne m'ait pas... Il a très bien décrit cette enfance lente. Moi, j'ai eu une enfance hibernante, avec un déclenchement tardif. C'est pas faux.
Mais vous ne le saviez pas au moment où vous le viviez.
Non, bien sûr que non. Moi, j'avais l'impression que le rythme, le solfège de l'enfant, c'était un rythme lent. C'est d'ailleurs quelque chose de très banal, puisque l'enfant pense qu'il est immortel. C'est ça le principe de l'enfance. Alors du coup, les résultats se font attendre. C'est normal. Un enfant n'est pas soumis à un principe de résultat et d'efficacité immédiat. Quant à lui, il a une longévité monstrueuse biologique. Alors, quand on a un enfant qui a un déclenchement tardif et que soi-même, on s'éternise beaucoup, ça fait des existences qui se répandent sur des intervalles infinis, quoi. C'est extraordinaire. C'est peut-être... Voilà quelque chose qui est peut-être génétique. Le tesson dur. Le grand bonheur, puisque c'est la question du bonheur. C'est d'ailleurs la seule question du bonheur. Est-on intéressant d'avoir les parents qu'on a eus et l'enfance qu'on a eue? Oui, bien sûr, et pour une raison que vous avez raison de dire que je ne m'en rendais pas compte, mais qu'on peut par la suite analyser, et pour une raison qui est que j'ai échappé à quelque chose qui, à mon avis, est un très mauvais service à rendre à un enfant, qui est le système. Nous n'étions pas des enfants qui étions élevés selon un système, car mes parents, mon père comme ma mère, n'étaient pas des personnes de système. Lui n'est pas un homme de système. C'est quelque chose qui d'ailleurs s'est exprimé, s'est manifesté dans sa vie, dans tous les champs de ses activités. Les journaux qu'il a faits n'étaient pas des journaux de système. La pensée politique qu'il déploie n'est pas une pensée de système. Ça n'est pas une théorie. Il n'y a ni carcan, et le projet politique de mon père me semble échapper beaucoup à l'ordre et à une certaine forme de rigueur. Or, quand vous êtes un enfant, c'est très agréable. Parce qu'on vous impose, on vous impulse quelques grands axes. Nous, on en avait. L'énergie, la gaieté et la liberté. À partir du moment où vous vous conformiez à ces grandes tensions de vie, qui sont plutôt des vertus d'ailleurs que des propositions pédagogiques, alors de le reste, on vous laissait faire les choses comme vous l'entendiez. Et ça, je pense que c'est un grand bonheur que j'ai reçu.
Donc vous êtes en train de nous expliquer, Sylvain Tesson, que vos parents ont adopté des principes rousseauistes et que c'était votre propre nature qui devait être encouragée, mais non pas un carcan de transmission de valeurs qui pouvait développer votre propre personnalité. Quand il y a eu cette crise bienfaisante d'adolescence et cette éclosion dont vient de parler votre père, était-ce à l'intérieur de votre propre nature, comme quelque chose qui devait de tout d'un coup advenir, ou était-ce pour faire plaisir à vos parents?
Non, c'était des caractéristiques enfouies, internes, qui se révélaient soudain et qui confirmaient ce que je viens de vous dire, à savoir que j'échappais à toute théorie. L'enfant, pour eux, n'était pas un champ expérimental de principes pédagogiques, quoi. Il y a beaucoup de parents qui utilisent leurs enfants comme une paillasse de laboratoire, comme une éprouvette pour essayer de mettre en pratique des théories pédagogiques. En général, ça donne des désastres. La pédagogie, de toute façon, c'est la cause d'effets pervers. Et moi, j'ai échappé
pas
à
toutes. Il y a des théories pédagogiques qui permettent l'épanouissement des enfants.
Peut-être. Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont assez étrangers à la pédagogie. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que toutes les modalités de construction plus tard de mon existence ont été antipodiques des siennes. Moi, je suis le garçon du mouvement. Lui, c'est le père de la stabilité. Moi, je suis le garçon de l'aventure physique. Lui, c'est le père de l'étude et de la culture. Moi, je suis du côté des animaux et de la forêt. Lui, est du côté des hommes et de la société. Enfin, rien n'était fait. Tout était fait pour nous séparer. Et pourtant, nous sommes très frères dans ce rapport de filiation. Nous nous sentons très proches. Normalement,
quand êtes-vous devenu frère et non plus père et fils?
au moment où, où on s'est mis à peut-être à se lire. Moi, je me suis mis à lire ce qu'il écrivait dans l'impulsion de l'édito, et puis lui, peut-être, a-t-il eu la patience et la gentillesse de lire ce que j'écrivais.
Avant lui. Je l'ai lu avant qu'il me lise. Bien sûr, bien, c'est formidable, j'avais cette supériorité sur lui. Et puis je pouvais mentir tant qu'il était enfant, alors qu'un enfant...
Vous lui racontiez des histoires ?
Oui, mais on parlait davantage de la vie, que nous n'étions dans l'imaginaire. Oui, ça c'est vrai, d'abord nous voyagions beaucoup, enfin nous passions beaucoup des vacances ensemble. Dans l'année scolaire notamment, nous étions moins voisins que nous n'étions pendant les vacances. Nous avons fait pendant les vacances, c'était une grande joie les vacances, ça durait 5-6 semaines, on faisait de grands voyages. Alors là, évidemment, nous laissions libre cours à notre nature et à notre légèreté d'esprit, c'était merveilleux. Dans l'année scolaire, c'était moins intéressant, puis je les aidais un peu dans leur travail, j'avais d'autres enfants. Nous les aidions dans leur travail, ils ont été élevés d'une manière un peu curieuse. C'était par saccades, où c'était tout le temps, où c'était des périodes très fortes de cohabitation et de complicité, notamment intellectuelle, ou alors nous les laissions dans leur liberté dans la semaine, et c'était une aération très propice à leur développement personnel.
Vous êtes le frère de votre fils ?
Oui, une fraternité. Il y a d'abord une complicité sur des sujets, des enjeux très importants. Ça peut être tacite, d'ailleurs, c'est un peu instinctif, c'est de nature. Ça, je le sens très fort. Il n'y a pas de réserve. Il y a une relative franchise, mais en même temps une pudeur. Enfin bref, la perfection. Oui, écoutez comme ça, bien sûr. Écoutez comme ça, c'est un peu ridicule. Voilà, donc, bon frère, physiquement, nous sommes très à l'opposé l'un de l'autre. Il l'a dit très bien, d'ailleurs, il a dit mieux que je ne saurais dire. Il était en constante expression de son corps. C'était très très important. Vivre pour lui, c'était d'abord vivre par son corps. Quand il était à l'école, il franchissait la fenêtre pour s'échapper à la conquête du savoir. La connaissance, il s'en fichait complètement. Il était dans l'explosion de sa force, sa violence physique, étonnante, de sa résistance, qui était assez fabuleuse. C'est un grand physique. D'ailleurs, c'est un grand sportif. C'est un alpiniste. C'est un homme du danger. Il fait des choses stupides avec son corps. Vous voyez, il fait de la chute libre, il fait de l'escalade, il monte à 6000 mètres, il ne respire plus.
Il vous demande jamais votre avis dans ces cas-là.
Ah mais il me demande mon avis, il sait que cet avis est négatif, mais il me désobéit. Il a une désobéissance franche, assez agréable d'ailleurs à observer, parce que il a une expression de lui-même que j'ai toujours admiré, qui est toujours très sympathique. Il a du vocabulaire, il sait s'exprimer, il n'est pas nul. Vous voyez ce que je veux dire? Il est gracieux, il y a quelque chose, il y a une grâce, mais c'est pas la grâce tendre. C'est vraiment la grâce animale, quoi. C'est voilà, Annie est très animal, alors que moi je suis très civilisé. Il est assez sauvage. C'est vrai, tu souscris à mon analyse.
Oui, sur mon manque total de raffinement, et je souscris parfaitement. Je pense qu'il n'y a pas eu de transmission, enfin c'est bien connu, d'ailleurs je crois même que c'est un principe de la biologie darwinienne, il n'y a pas de transmission héréditaire des caractères acquis, mais il y a une transmission héréditaire des caractères enfouis, et il y en a une chez lui quand même, malgré tout ce qu'il vient de dire à propos de son sa sophistication physique, son urbanité existentielle et domestique, qui est très vrai. Mon père, on sent que il a un appareillage chimique et psychophysiologique qui le prédispose davantage à une soirée dans un salon proustien qu'à une traversée de la steppe mongole sur un sidecar soviétique par une nuit d'hiver.
Oui, mais avec Proust dans les mains.
Avec Proust dans les mains. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout de même chez lui, et ça nous, une caractéristique biologique et physique dont je crois avoir hérité, et qui est très sensible chez lui, malgré ce caractère tout à fait urbain, chez lui, c'est l'élan vital, l'énergie physique, dont d'ailleurs son état de santé actuel enfin, est un témoignage flagrant. Quoi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai eu une enfance où j'ai vu des parents qui n'étaient jamais fatigués. Dans un monde
qui est toujours fatigué.
Comment ?
qui est toujours fatigué.
Dans un monde qui est très fatigué, qui est toujours fatigué, et où la fatigue est même devenue une espèce de composante, de revendication, d'expression, d'une composante, d'une modalité tout à fait respectable, tout à fait enviable, et qu'il convient de respecter, et à laquelle il faut apporter une conformité, enfin des dispositions qu'on prend afin de lui ménager une place d'expression. Voilà, soyez fatigué. Soyez fatigués, nous nous occupons de vous, l'État est là pour prendre votre fatigue en compte et nous fournissons les oreillers et les édredons. Mes parents n'aimaient pas ça, je les ai jamais vus s'endormir.
Je vous propose d'écouter la voix de votre mère, Sylvain Tesson, la voix de votre compagne, de votre amoureuse, Marie-Claude Tesson. À l'époque, elle était directrice du quotidien du médecin, elle va nous expliquer comment elle est passée de la médecine au journalisme. C'était au micro de Jacques Chancel et c'était le 12 mars 1981.
Trahison, vous appelez cela. Devenir journaliste quand il s'agit d'écrire pour des médecins, est-ce vraiment une trahison ?
Je vous le demande.
Je vous réponds qu'à mon sens, ce n'en est pas vraiment une et que je ne le vis en tout cas pas comme cela. Et que pour l'instant, je considère que le métier que je fais n'est pas très très éloigné de celui que j'ai failli faire. Il est vrai que j'ai passé 10 ans de ma vie dans une faculté de médecine et que je n'ai jamais ouvert de cabinet en sortant de ces longues études, effectivement. Pour une bonne raison, c'est que j'ai une circonstance atténuante et je vais vous la livrer immédiatement, c'est que j'ai été débauchée par mon époux, ce qui au fond est assez raisonnable.
C'est une perte pour la médecine ?
Ah, je ne sais pas du tout, je me suis jamais interrogée là-dessus, je ne crois pas, car au fond, il y a quand même 110 000 médecins dans ce pays, et j'irais jusqu'à dire qu'un de plus ou un de moins, ça n'est pas très grave. Écoutez, je n'ai pas encore eu la nostalgie du métier que j'ai failli faire jusqu'à maintenant. J'y pense souvent d'abord parce que je suis plongée là-dedans toute la journée par l'intermédiaire de ce journal qui est au fond un trait d'union permanent avec ce métier. Je n'éprouve pas le regret de ne pas le faire parce que j'ai au fond trouvé un certain nombre de correspondances entre le journalisme médical que j'exerce actuellement, et la médecine, dont je me souviens beaucoup, mais que je n'exerce plus. Ces correspondances, je pourrais dire rapidement que, au fond, le journalisme médical, le journalisme tout court, fait appel à des qualités ou à des tournures d'esprit qui sont très proches, j'y pense maintenant et de plus en plus souvent, à celles que la médecine nécessite, à celles que la pratique de la médecine nécessite. La plus importante, à mes yeux, c'est la curiosité intellectuelle, la curiosité des choses. Au fond, on dit toujours que la curiosité est un vilain défaut et la médecine et le journalisme prouvent le contraire, exactement l'un et l'autre.
Je me souviens du visage de Marie-Claude, je me souviens du regard de Marie-Claude, je me souviens de la présence de Marie-Claude avec vous au théâtre, pratiquement tous les soirs, Philippe. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait en quelque sorte un partage des rôles, que la mère était plus sévère avec le fils, qui était un peu cancre, on l'aura compris, que le père qui était plus tendre et qui laissait ce petit oisillon un jour peut-être devenir un aigle. Pourquoi ce partage des rôles ? Il s'est fait naturellement ?
Oui, il s'est fait naturellement, tout à fait. Il y a aussi un problème d'âge, j'étais beaucoup plus âgé que ma femme, qui avait 15 ans de moins que moi. Elle était de nature, ma femme était très au moins dans ses intentions et dans ses conduites de vie, était beaucoup plus rigoureuse que moi. Il y a dans toute sévérité, bien sûr, une rigueur plus accomplie que dans une forme de laxisme. Voilà, elle avait une fantaisie, mais c'est pas un hommage que je me rends à moi-même. Elle avait beaucoup moins de fantaisie que moi-même, donc forcément plus de désordre. Je veux dire que j'avais plus de désordre qu'elle, car le désordre intérieur est la chose la plus redoutable qu'on puisse imaginer, puisqu'elle cache souvent, elle est souvent cachée, je veux dire, elle est souvent cachée par une rigueur extérieure. Je trouve que les gens désordonnés savent donner le change d'une manière tragique, parce que on est pris à leur jeu, et que de déconvenus connaît-on de ce fait. Je ne sais pas si je suis clair. Alors là, c'est moi que je mets en cause. Une forme d'égoïsme chez moi, de père. Le père, de toute façon, enfin on le sait tout ça, j'enfonce des portes ouvertes tout à fait banales, mais enfin après tout, qui suis-je ? Voilà, je trouvais mon bonheur
Ça renvoie encore à l'âge, une fois de plus. Je sais pas, mon dernier enfant, j'ai eu à plus de 50 ans, vous voyez. C'est une fille, elle s'appelle Daphné. On trouve beaucoup de bonheur dans le jeu, quand on est un peu âgé, quand, dans le jeu qu'on mène avec ses enfants. On a des tendresses, le père est démagogue. La mère a cette remarquable vertu de la responsabilité. Le père est un enfant gâté, surtout quand il a des enfants comme moi j'ai eu, qui étaient des enfants merveilleux, comme la plupart des enfants. La plupart des enfants sont merveilleux, on va pas non plus faire une histoire, parce que j'ai eu un fils qui sait écrire de manière un petit peu plus colorée que beaucoup d'autres. C'est ce que j'appelle d'ailleurs l'abdication de la fierté, j'ai aucune fierté.
Le partage des rôles, vous l'avez ressenti ainsi, Sylvain ?
Oui, je crois qu'il y a un partage des... Il y a eu un partage des rôles qui correspond à un partage des eaux, comme on dit en géographie, un véritable partage de la vision du monde qui peut-être expliqué par l'immense abîme qui sépare une vie dans l'ordre selon le principe du théâtre et une vie selon le principe de la médecine. La médecine ne ment pas. La chair ne ment pas, pour reprendre une allitération malheureuse. La chair ne ment pas alors que la scène ment. La scène est là pour donner une illusion du monde, tandis que la médecine tente de porter un diagnostic qui est porté par la vérité, afin d'éviter la mort. Enfin, donc, ce sont des questions qui sont très, très, très importantes. Or, ma mère aimait aller au théâtre dans sa vie, mais elle n'aimait pas mettre le théâtre dans sa vie. Elle n'aimait pas les vies théâtrales. Contrairement à son père, elle n'aimait pas ce qu'elle appelait le cabotinage. Elle n'aimait pas elle n'aimait pas l'excès, elle n'aimait pas l'extravagance. Et c'est la raison pour laquelle on pouvait avoir l'impression, quand on la connaissait mal, quand on ne la connaissait que à travers les émissions qu'elle a pu donner à Jacques Chancel, on pouvait avoir l'impression d'une femme froide, d'une femme rigoureuse. Alors que, je crois que mon père a eu raison de le souligner, il y avait beaucoup plus de tourments intérieurs chez elle, qu'elle a plus tard d'ailleurs exprimé dans des livres qu'elle a écrits, des livres de nouvelles qu'elle a publiés aux éditions des Femmes, et qui laissaient entrevoir des parages insoupçonnés, que son visage très, très anguleux, très froid, sa stature très hiératique, et une certaine froideur dans la relation humaine ne laissaient pas soupçonner.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Sylvain Tesson, La fantaisie pour piano à quatre mains de Schubert, interprété par les Sœurs Labeck.
Thank you.
Merci pour ce choix, Sylvain Tesson. Pourquoi ce choix?
Parce que d'abord, ce sont les sœurs Labec et que j'ai deux sœurs. Et parfois, il me plaît à penser que mes sœurs pourraient se réunir plus souvent pour jouer du piano à quatre mains. Et ensuite, parce qu'il y a ce morceau, enfin, c'est toute cette rencontre de l'énergie et de la mélancolie, de la vitalité, mais la tristesse. Enfin, le printemps et l'automne dans la même saison, la même mesure. Et puis parce qu'il y a le rythme, et puis parce que c'est pas mou. Et que ça me rappelle mon enfance, car nous avions une enfance qui n'intégrait pas la possibilité de la mollesse. Il y avait une sorte d'énergie qui a traversé mon enfance, de courant d'air, d'agitation, pourrait-on dire, si on était moins poli, mais aussi une gaieté. Voilà, on entend la gaieté dans la fantaisie des Sœurs Labec, enfin de Schubert, on entend la gaieté, et ça c'est un principe d'éducation, puisque tout à l'heure on essayait de détecter quels étaient les grands axes d'éducation, celui-là on nous l'a imposé. Vous comprenez, moi quand je...
Ça veut dire quoi, la gaieté, comme principe de vie?
Ça veut dire la gaieté comme obligation, comme discipline.
Ça passe par quoi?
Ça passe par le fait qu'il faut offrir un sourire, un visage, un comportement, une politesse de la gaieté, qui n'est pas forcément la joie, parce que la joie c'est un état, la gaieté c'est la manifestation de l'état. Alors il faut offrir une manifestation d'un état de gaieté, et moi ça me plaît beaucoup, parce que quand je parle de mon enfance, je ne suis pas, moi, de l'éducation, du hashtag, je ne vais pas expliquer que je suis dans la douleur, je suis une victime de quelque chose, que je n'ai aucune responsabilité dans les tourments que j'éprouve. Et si vous voulez, je n'ai pas commencé en grandissant à chercher qui était mon bourreau et qui était le responsable de mes tristesses. On m'a plutôt appris à dire que d'abord me devais d'être gay et puis ensuite on verrait.
Donc on voit bien que quand même votre père, qui manifestement ne vous a donné aucune éducation, a quand même semé quelques petites graines, dont notamment le sens de la responsabilité.
Mais donner une éducation, ça n'est pas indiquer de la direction où il faut aller, c'est créer un état, c'est créer une atmosphère. C'est pour ça que l'éducation c'est quelque chose de très littéraire à mon sens. L'éducation c'est camper un décor, et puis après on improvise. Mais nous, on avait un décor, on avait une véritable atmosphère. C'est le souvenir que j'ai, moi, très vaporeux, volatile, impressionniste de mon enfance. C'est plus une atmosphère que des séquences biographiques extrêmement précises, que celles-là se sont un peu effacées. Mais il me reste une atmosphère superbe. Or, je crois que c'est ça, l'enfance. L'enfance procède d'un sentiment éthéré.
Quand êtes-vous parti de chez vos parents ?
D'abord, je suis parti une bonne fois pour toutes. Je suis pas beaucoup revenu. Quand je suis parti faire le tour du monde à bicyclette, je devais avoir une vingtaine d'années. Et puis un jour, je suis parti faire ce voyage initiatique. Mais on m'a jamais tellement revu. Je suis pas trop revenu.
Vous le voyez souvent, votre fils, Philippe Tesson?
Vous le voyez au présent, vous voulez dire?
Oui. Mais il est pas souvent là.
Non, mais quand il est là, il prend sa place.
Vous voulez dire qu'il est trop là?
Non, pas du tout. On ne prend jamais trop sa place. Un enfant ne prend jamais trop sa place quand on est heureux de vivre avec lui. Il n'y a jamais eu de crise entre nous. Il est parti, j'ai eu beaucoup de chagrin quand il est parti.
Lui?
Il n'y a jamais eu de crise tragique entre nous. Et pourtant, il y aurait pu y en avoir une parce que je n'étais pas pour. J'étais pour des raisons d'ailleurs tout à fait avouables et qui tiennent à des, comment dirais-je, à un sentiment très pur, très simple. La peur, l'angoisse. Il est parti à 20 ans, un peu plus de 20 ans, il avait rempli un contrat, il avait fait des études assez fortes, et il avait rempli une sorte de contrat, il est parti de loin, dangereusement, très...
Sans pouvoir donner de nouvelles.
Si, il y avait entre nous là encore un contrat, il devait donner des nouvelles tous les 10 jours, ça a duré plus d'un an, il l'a fait, il y a eu un ou deux accidents tragiques, enfin tragiques, dramatiques en tout cas, mais voilà, il l'a fait contre mon gré, mais je l'ai supporté parce que je pensais qu'il fallait qu'il s'en aille, c'était trop le désir de fuite, exil, mais positif. Il n'est pas parti vers la mort, il est parti vraiment vers la libération de lui-même, il est parti parce qu'il avait envie de vivre et je trouvais ça superbe. D'autant plus j'aurais été incapable de faire ce qu'il a fait. J'avais une forme d'admiration pour lui. Oh, je suis pas allé jusqu'au mépris parce que je suis pas masochiste et puis j'aime pas ces jeux-là. Il monte à 6000 mètres et moi j'ai le vertige au premier étage d'un balcon. Comment ne pas admirer cette performance absolument extraordinaire? J'ai peur de tout. J'ai peur de la nuit. J'ai peur des bêtes. J'ai peur de la nature. Il adore la nature. On ne peut pas imaginer deux êtres plus différents dans leur comportement de vie. Mais quelque chose de transcendantal fait qu'on sublime tout ça. Non seulement on s'en contente, mais on y trouve un bonheur. Puis partir, c'est, soyons banals jusqu'au bout, c'est la promesse d'un retour. J'ai vécu dans cette promesse-là. Vous n'imaginez pas la joie que même, parce qu'il est vrai que je suis maintenant un peu gâteux, mais la joie que j'éprouve à l'attendre. Tout ça se fait dans le bonheur. Il a parlé de gaieté. Je parle plutôt de bonheur. Il y a, chez moi-même et chez ma femme, je l'ai apprivoisé à cet égard. Il y a eu toujours et pendant très longtemps, une attente de bonheur, un goût de bonheur, un privilège donné à l'idée de bonheur, à la chose du bonheur, etc. La gaieté, il appelle lui la gaieté. La joie de la vie et surtout le refus du chagrin, quelque chose de très positif qu'on peut appeler aussi un élan vital, mais enfin, je vais pas développer ça, quelque chose de très positif. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On essaie de dominer les chagrins qu'offre la vie. Nous disons tous les deux la même chose, d'ailleurs, à cet égard. Il n'y a pas de contradiction entre nous. Simplement, il y a une contradiction dans la conduite de la vie. Parfois, les sources sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes. Restent les nuances que la nature nous a imposées, c'est-à-dire une vision a priori pessimiste de la vie ou une vision très optimiste de la vie. Là-dessus, nous divergeons, peu importe.
Proposez-vous de temps en temps à votre père de partir avec vous, Sylvain Tesson, ou avez-vous besoin de cette solitude ?
Non seulement je ne lui propose pas de partir, mais je ne lui raconte pas véritablement ce que je vis. Notre entente se situe sur un autre terrain, une autre complicité. Notre affection ne se nourrit pas d'une complicité d'anciens combattants qui font les mêmes choses. Et qui s'aiment parce que ils comprennent la même langue et que leurs souvenirs sont communs et que leurs passions répondent aux mêmes univers. Non, c'est d'ailleurs finalement la véritable affection en fait qui est sans objet de rencontre et de complicité immédiate. Quoi. Nous, ça se situe sur un autre terrain et ça ne s'est jamais démenti et surtout.
Et ça s'exprime par des mots ou par des gestes ?
Oui, non, par des mots. Non, par des mots. Nous parlons beaucoup, nous nous voyons beaucoup, nous conversons beaucoup, et puis nous aimons les mots. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Nous aimons le nuage des mots. Nous préférons dire les choses que les choses elles-mêmes. Nous préférons, le discours à sa signification, quoi. Nous aimons les mots. Nous aimons peut-être un peu trop les mots. Nous aimons l'étourdissement des mots et nous sommes, en fait, parfois nous tenons deux longs monologues dont nous persuadons qu'ils forment une conversation. Au moins nous nous écoutons, mais je ne sais pas très bien si nous dialoguons vraiment ou si nous divagons dans nos propres confidences. Mais enfin, nous nous voyons beaucoup et surtout, tout cela n'a jamais été traversé par une rupture. Moi, je ne suis pas du tout du côté du procès de la rupture à l'égard des parents. En cela, je crois qu'on est très peu psychanalytique dans cette famille. Nous avons vécu dans les jardins, nous avons aimé les pianos, nous avons aimé les tablés dans le soleil, nous avons eu ce qui peut ressembler au tableau bourgeois de la fin de cette représentation de la famille à la fin du 19e siècle, quoi. Davantage que les divans d'Europe centrale où on s'allonge pour tuer son père et puis imaginer des scènes grecques archaïques avec sa mère, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On n'a pas du tout été freudien dans cette famille. Moi, je préfère la figure de Télémaque, d'ailleurs, pour utiliser l'application des mythes grecs sur les parties génitales, comme Henri Miller disait de la psychanalyse. Je préfère Télémaque qui tente de rabibocher son père et sa mère, qui veut instaurer son passage à l'âge adulte par la restauration de l'équilibre parental et l'amour de ses parents, plutôt que la proposition freudienne qui, je vous l'accorde, est peut-être plus intéressante parce qu'elle est plus tragique et puis elle est plus mélodramatique, mais moi qui ne m'a jamais intéressé.
Philippe Tesson.
Nous ne sommes pas latins, nous sommes plutôt du Nord. Enfin, nous sommes même tout à fait du Nord. Enfin, du Nord français. Mais si on s'en tient à cette grille de lecture, nous sommes plus proches de Ibsen que de Strindberg. Nous sommes plus proches de Peer Gynt, et qui est finalement un héros familier pour nous. Nous sommes assez à l'image de cette esthétique et de cette culture que à l'image des héros sinistres de Strindberg. Mais voilà, ce qui ne nous empêche pas de... Ce qui est sûr, c'est que il a décrit une forme de bonheur, de vie, qui résume assez bien, toute chose égale, la vie que nous avons menée jusqu'à présent, les uns et les autres, un bonheur de vie, mais dans une tonalité, dans une tonalité plus proche des cieux tourmentés du Nord que dans la clarté du Sud. Je sais pas si je suis clair.
Si, la sensation de la vie, Philippe Tesson, vous l'éprouvez plus quand vous êtes enfermé dans un théâtre et que vous assistez à une représentation, ou vous la ressentez encore plus quand vous sortez du théâtre et que vous utilisez des mots pour décrire ce que vous avez vu dans une conversation avec votre fils?
Le théâtre est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Ce n'est pas un divertissement. Ça a été... même professionnellement, mais surtout dans ma vie personnelle, le théâtre m'a servi de grille de lecture de beaucoup de choses. Je trouve le théâtre est une vie pour moi aussi plusieurs égards, presque aussi importante que ma vie réelle. C'est une façon de répondre à votre question. Précisément, je comprends pas très 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 bien la précision de la question.
Tout à l'heure, Sylvain a dit que il y avait l'étourdissement des mots, le vertige des mots. Que quelquefois, entre vous, la relation était si forte que les mots servaient peut-être plus encore à épaissir cette joie de vivre et cette gaieté que de vivre réellement sa pauvre vie,
ce
métier qu'est de vivre.
Est-ce que je trouve dans l'illusion un bonheur égal à celui que je trouve dans la réalité? Oui, absolument oui. J'ai besoin de cette illusion-là, ne serait-ce que pour échapper au tragique de la réalité vivante. Et puis c'est très clair. C'est pas très original, je crois.
Et vous, Sylvain Tesson, si c'est original, parce que ça constitue un lien très fort entre vous.
Et je crois que là,
vous, Sylvain Tesson, est-ce que vous éprouvez plus d'intensité, de l'épaisseur de l'existence et de la joie de vivre quand vous êtes au fin fond de la taïga, ou quand vous sortez d'une conversation avec votre père après avoir traversé un bout d'un continent?
Moi, j'aime vivre par-dessus tout l'expérience réelle, organique et sensuelle.
Seul, donc.
Seul.
Sans mots.
Seul et de manière souvent assez âpre. C'est quelque chose qui est nécessaire à mon organisation intérieure. Je suis équipé et doté d'un appareil sensoriel qui est très avide de connaître la réalité organique des choses, enfin le froid, ce genre de choses. Davantage que les sentiments, d'ailleurs. Je ne suis pas un être psychologique. En revanche, j'éprouve une immense jouissance à transformer la sensation en notation, ce qui est une manière cuistre de dire que j'aime les mots. J'aime écrire ce que je vis, et je crois que j'écris pour vivre. Mon père aime écrire ce qu'il pense, et je le soupçonne parfois d'écrire pour savoir ce qu'il pense. Il me semble que parfois l'édito lui permet d'organiser sa pensée, son opinion, et il lui arrive parfois, à son grand désarroi, d'être assez d'accord avec lui-même, d'ailleurs, et de ne pas être tout à fait capable de porter la contradiction jusque dans ses propres convictions. Eh bien moi, c'est un mécanisme qui est assez similaire. Je transforme ce que je vis en mots, lui transforme ce qu'il pense et ce qu'il éprouve en mots. Enfin, nous mettons le mot, la lettre, le verbe au-dessus de beaucoup de choses, quoi. Et enfin, en tout cas, nous mettons le mot dans une position qui est une confirmation, un accomplissement, une bénédiction, une fermeture qui instaure la réalité de ce que nous avons vécu ou pensé ou éprouvé.
J'adhère à ce jugement, fut-il favorable à ses intérêts davantage qu'au mien.
Ben merci infiniment à tous les deux, vous êtes super.
Qui? Lequel?
À tous les deux.
Ah oui, ajoutez-le, parce que nous ne sommes pas à la télévision. Tous les deux, c'est promis. Avec une hiérarchie, non? Non, tous les deux.
Je croyais que vous étiez frères.
Oui, mais enfin, vous êtes particulièrement consensuels. Vous avez peur, en fait.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfin, à moi-même. De temps en temps. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Sa peau, oublier qu'on fut avant. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang. Je t'aime.